Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral, donc tout de suite, je reçois, comme habitué à notre antenne, Monique Etienne, vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour.
Bonjour.
04, il ne faut pas oublier, oui. 04. Et puis, avec vous, donc, deux membres du conseil d'administration de cette même association, Mirad Duquet et Michel Berne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va refaire un petit tour du côté de cette association, même si on en parle beaucoup, de rappeler ses objectifs. Et puis ensuite, vous nous parlerez de ce voyage en Palestine que vous avez effectué.
Donc, l'association France-Palestine Solidarité est une association nationale. C'est la plus ancienne association de solidarité avec le peuple palestinien en France. Nous avons à peu près une centaine de délégations en France, nous couvrons toutes les régions et quasi tous les départements. Et donc, l'AFPS 04 a été créé en 2002 suite à l'agression donc israélienne au moment de l'opération Rempart. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Arafat, le président donc de l'autorité palestinienne, a été encerclé et enfermé dans son siège à Ramallah. Et où la destruction systématique de toutes les instances qui avaient été construites avec l'aide d'ailleurs de l'Union européenne ont été détruites par l'armée israélienne. Notre association a pour but d'abord de sensibiliser et d'informer. On peut dire que c'est une association de type association 1901 d'éducation populaire. Et puis de sensibiliser et de, on pourrait dire, je dirais même, d'interpeller et de ne pas lâcher nos élus afin qu'ils se positionnent pour faire respecter le droit, tout simplement. Puisque notre axe d'action, c'est l'application du droit international. Nous ne sommes ni pro-palestiniens ni anti-israéliens. Nous sommes pour la justice et le droit. Et ce droit, il est écrit par de nombreuses résolutions de l'ONU qui ne sont jamais appliquées et qui sont violées systématiquement par la puissance occupante qui est Israël. Et puis le dernier volet, c'est effectivement les sanctions, c'est-à-dire d'agir pour faire appliquer des sanctions à la politique de colonisation israélienne. Et c'est ce qu'on appelle BDS, boycott des investissements sanctions, c'est-à-dire boycotter les produits issus des colonies qui sont illégales et faire appliquer des sanctions, entre autres la suspension de l'accord d'association au niveau européen qui permet à Israël de vendre ses produits détaxés sur toute l'Union européenne. Et enfin, le dernier volet, c'est d'organiser des missions et des échanges, d'abord pour faire connaître la culture et la résistance palestinienne, et ensuite, nous-mêmes, de rencontrer, de connaître la réalité de ces pays. Et c'est pourquoi nous avons organisé une mission en septembre avec 11 membres de l'AFPS 04. C'était une mission qui avait pour but de faire découvrir la situation in visu et sur le terrain, dont on parle, puisque les 11 membres qui étaient de cette mission sont tous membres de l'AFPS, mais la plupart n'étaient jamais allés sur le terrain. Et là, je crois que nos amis pourront témoigner de ce qu'ils ont vu.
On va y venir. Donc, Michel, si vous voulez nous expliquer comment ça s'est passé et ce que vous avez vu en Palestine.
Effectivement, je n'étais jamais allé sur le terrain. Je suis arrivé en Israël et en Palestine avec le moins d'idées toutes faites possible. Et puis j'ai découvert une réalité qui dépassait de très loin ce que j'aurais pu imaginer. Le premier contact, c'est un pays aride, mais avec des paysages somptueux. Le deuxième contact que j'ai eu avec ce pays, c'est une différence très visible entre les maisons israéliennes et les maisons palestiniennes. Les maisons palestiniennes sont systématiquement surmontées de citernes noires qui servent de caisses à eau, parce que la distribution de l'eau est sous contrôle israélien sur l'ensemble du territoire, et la distribution de l'eau aux Palestiniens se fait à faible pression et de manière parcimonieuse. Ils sont donc obligés de surélever leur citerne d'eau de façon à avoir un petit peu de pression au robinet. La deuxième chose qui m'a vraiment frappé, c'est le contact avec les colonies israéliennes qui dépasse ce qu'on pouvait imaginer avant de partir. Il y a toutes sortes de colonies israéliennes en Palestine. Il y en a dans la campagne et il y en a dans les villes. Dans la campagne, elle démarre toujours du sommet des collines. Sont implantés d'abord des bungalows avec des colons décidés à rester là coûte que coûte. Puis les militaires viennent pour les protéger. Ils définissent une zone de sécurité assez vaste, en accord avec le gouvernement, de sorte que finalement, cette limite de sécurité correspond à l'implantation finale de la colonie. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que les bungalows qui sont au sommet de la colline. Cette protection se matérialise par un mur de barbelés qui sont équipés de lames de rasoir, qui sont électrifiées, avec une route côté intérieur du mur et de l'autre côté du mur, une zone de sécurité supplémentaire qui doit servir de no man's land. Éventuellement, s'il y a des maisons palestiniennes sur ces zones-là, elles peuvent être détruites par des bulldozers sans préavis, de façon à nettoyer le terrain. Une fois les bungalows et la zone de sécurité installées, la construction commence et se matérialise par des constructions massives de maisons qui déferlent par centaines vers la vallée sur des kilomètres de long. Donc ce n'est pas du tout des petites colonies comme j'aurais pu le penser auparavant. Ce sont des colonies massives qui représentent actuellement 790 000 habitants à peu près, ce qui représente pas loin de 10% de la population israélienne. C'est donc pas du tout un phénomène marginal, c'est un phénomène extrêmement important. Le deuxième type de colonisation que nous avons constaté, c'est à l'intérieur des villes. Donc les maisons occupées par les Israéliens sont équipées de barbelés, avec des drapeaux israéliens ostensiblement mis aux fenêtres, avec des alarmes en tout genre, des visiophones pour pouvoir entrer et des militaires dans le cas où les maisons sont vraiment situées dans des zones où l'arrogance de leur position peut provoquer des troubles. Et puis il y a aussi d'autres maisons de colons israéliens dans les villes, toujours équipées de systèmes d'alarme, de caméras en tout genre. Et celles-ci sont surmontées de guérites qui sont occupées par des vigiles, soit par des vigiles de voisinage, par des milices de voisinage pour surveiller les abords, soit par une milice privée qui sont armés et qui surveillent les abords toute la journée. Ceci est un indicateur pour moi du fait que vraisemblablement ces colons qui s'implantent dans les villes sont de situation relativement aisée pour pouvoir payer tous ces vigiles. Voilà, ça c'est pour la partie colonie.
Oui, je vais peut-être ajouter pour repréciser dans le territoire, la question du territoire palestinien, parce que ce dont parle Michel, ces colonies, il faut bien prendre conscience qu'elles sont en territoire palestinien.
Palestinien, bien sûr.
Hein, et donc, Israël et la Cisjordanie et Gaza, c'est grand à peu près comme le Languedoc-Roussillon. Ce sont des tout petits territoires. Le territoire de la Cisjordanie, on ne parle pas de Gaza, puisque Gaza, vous le savez, est isolé depuis 2007. Donc, on ne peut plus rentrer à Gaza. Et Gaza est coupé donc de la Cisjordanie. Les Gazaouis ne peuvent plus rencontrer les gens de Cisjordanie, les Palestiniens de Cisjordanie. La Cisjordanie est un petit territoire qui est entouré par les murs qui ont été construits donc par Israël et des murs qui sont à la fois des barrières électrifiées et des murs qui peuvent atteindre 10 mètres de haut dans les villes, entre autres. À l'intérieur de ces murs, il y a ce qu'on appelle les checkpoints, c'est-à-dire les routes qui permettent d'aller d'un point à l'autre sont séparées par des checkpoints tenus par l'armée israélienne, donc une armée d'occupation. C'est comme quand pendant la Seconde Guerre mondiale, la Palestine est occupée. Et donc les Palestiniens, pour circuler, doivent toujours avoir un permis pour pouvoir aller d'une zone à l'autre dans leur propre territoire. Et dans ce propre territoire, qui est donc tout petit, il y a ces colonies dont parle Michel. C'est-à-dire que ce sont vraiment des chancres qu'on peut voir matériellement, physiquement, qui prennent la terre rurale de la Palestine et qui colonise systématiquement le territoire, puisqu'on peut estimer que 60% actuellement du territoire est soumis, du territoire palestinien, est soumis directement à la domination d'Israël et à l'armée israélienne. Et dans ces colonies, en plus de ce qu'a dit Michel, il y a ce qu'ils appellent la zone d'extension naturelle. C'est-à-dire que tout autour des colonies, toutes les terres sont interdites aux Palestiniens pour pouvoir étendre ces colonies. Donc en fait, quand on dit qu'aujourd'hui, il est très difficile de construire un État palestinien sur ce qui reste de terre véritablement à la souveraineté palestinienne, c'est une réalité qu'on peut voir physiquement quand on va sur place.
C'est ça, quand on arrive pour la première fois, on en entend parler vraiment, mais de voir la réalité, c'est vraiment, c'est un choc vraiment très très important. Tout d'un coup, le mur prend vraiment, on peut le toucher, on peut le voir, et vraiment ça, c'est extrêmement important, ça change tout, quoi. C'est vraiment une émotion très très grande de ce mur qui est une vraie pieuvre qui s'avance, une vraie serpent qui s'avance assidueusement et continuellement et qui n'est pas fini encore, malheureusement.
Est-ce que c'était dangereux pour vous de vous rendre là-bas?
Non, il n'y a pas de danger, sauf si on se trouve dans une situation comme nous on a pu se trouver avec Christian au moment de la deuxième intifada, quand il y avait véritablement des affrontements et que l'armée tirait, ou quand on était par exemple pour défendre les Palestiniens des villages qui étaient menacés par le mur et où l'armée pouvait tirer soit avec des balles en caoutchouc et des fois en balles directes. Là, on pouvait risquer, comme tous les Palestiniens. Mais autrement, il n'y a pas de danger pour nous. Le seul danger qu'il y a, c'est de se faire expulser par Israël, puisque il n'y a pas d'État palestinien. Il faut bien prendre conscience de ça. Il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de frontière palestinienne. Donc, on est obligé d'arriver à Tel Aviv en Israël si on veut aller en Palestine. Et là, il y a un filtrage, hein. Je pense que Michel pourra en parler, et Mirad, puisqu'ils ont été sujets aux fouilles israéliennes. Et là, ils peuvent à tout moment nous refouler.
Alors, justement, comment ça s'est passé pour vous? Alors, j'imagine que ça rajoute à l'état de choc.
Le passage à l'aller s'est passé sans encombre. Nous avons, comme la règle le veut, présenté nos passeports. On nous a délivré une petite carte de couleur bleue, qui est une sorte de sauf-conduit, qui nous permet d'aller partout. Mais la situation s'est compliquée au retour de manière très inattendue parce que nous sommes arrivés, comme toujours, avec un certain temps d'avance avant de prendre l'avion. Et nous avons mis nos valises à l'embarquement sans aucun problème. Et puis nous avons attendu dans la salle d'embarquement. Et au bout d'une heure, une heure et quart, j'ai entendu mon nom prononcé à haut-parleur en me demandant de me rendre à l'accueil. Donc je me suis rendu à l'accueil et là on m'a dit que la sécurité voulait m'interviewer, me voir. Donc on m'a fait m'asseoir un peu plus loin. J'ai encore attendu patiemment pendant près de trois quarts d'heure. Heureusement, nous avions trois heures d'avance. Et puis quelqu'un de la sécurité s'est avancé, très poliment, s'est présenté, a voulu me questionner, me demandant ce que j'étais venu faire en Israël. J'ai répondu que je voulais faire du tourisme. Je n'avais pas très envie d'expliquer le but
du voyage,
d'information de ce voyage. Et il me dit, mais vous me dites que vous faites du tourisme, mais dans votre valise, il y a des documents sur le développement de la Palestine. Alors, je lui ai expliqué qu'une fois à Jérusalem-Est, nous nous étions rendus compte d'une différence de niveau de vie entre les Palestiniens et les Israéliens et que nous avions voulu en savoir davantage. Alors, il m'a un petit peu plus questionné. Où est-ce que vous êtes allé? J'ai visité les lieux saints. Nous sommes allés à Jaffa, à Tel Aviv. Mais encore, évidemment, bien sûr. Donc j'ai fini par dire que nous étions allés à Bethléem, que nous étions allés à Hébron, et puis que nous étions allés à Ramallah et à Naplouse, puisqu'il insistait un petit peu pour en savoir davantage. Il me disait, mais à Ramallah, il n'y a pas de tourisme à faire. Je lui ai répondu que si, il y avait le musée Arafat, qui est très intéressant, qui présente toute une histoire de la résistance palestinienne. Et puis, à Naplouse, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a une vieille ville que j'ai visitée gentiment et avec une tradition commerciale très ancienne. Voilà, donc ça a été un petit peu un jeu du chat et de la souris. Il ne croyait pas un mot de ce que je lui racontais et je me rendais bien compte que c'était le cas, mais je n'avais pas envie d'aller plus loin. Finalement, il m'a demandé si je voyageais tout seul. Alors j'ai répondu que non, que j'avais ma compagne avec moi, qui a été appelée donc à son tour au micro, qui est venue à son tour, qui avait la chance de pouvoir dire qu'elle ne comprenait pas l'anglais. Et donc je faisais l'office de traduction. Et puis finalement, nous avons été l'un et l'autre emmenés derrière des paravents et nous avons été fouillés. Alors, pas déshabillé, mais fouillé intégralement, les doublures du pantalon défaites, les chaussures enlevées. Et finalement, on nous a fait nous scanner intégralement sur une machine spéciale et conçue pour ça. Et puis, on a encore attendu, et finalement, ils nous ont dit qu'on pouvait partir. Voilà. Donc, c'était une mésaventure pas très agréable, mais enfin, somme toute, qui s'est bien terminée. Par contre, arrivé à Genève, notre valise était restée à l'aéroport de Tel Aviv. Elle y est restée une semaine et nous n'avons pu la récupérer que 8 à 10 jours plus tard. Voilà. Lorsque nous avons reçu cette valise, évidemment, tout avait été fouillé, chamboulé, des affaires changées de place, la valise elle-même abîmée. Mais nous avons récupéré l'intégralité de nos affaires et de nos documents.
Ben, quelle aventure, hein. Ouais.
Petite aventure, c'est par rapport à ce que vivent les Palestiniens continuellement. Et on se disait vraiment, c'est dérisoire par rapport à ce quotidien qu'ils vivent, eux. Mais une expérience quand même profonde.
Je peux ajouter que l'accueil des Palestiniens que nous avons rencontrés a toujours été unanimement chaleureux. Et ils nous ont tous unanimement parlé de leur humiliation quotidienne au passage de checkpoint, avec des tracasseries de l'administration israélienne, avec le chômage galopant, avec l'absence de perspective pour leur propre développement, et cette difficulté qu'ils ont à vivre sous le joug de l'occupation.
Mais à la fois, je dirais, avec ils gardent quand même une force en eux, un optimisme. Je dirais, on peut même dire, entre guillemets, une joie de vivre extraordinaire. Et il n'y a pas de plainte. Il y a au contraire un désir constant de résistance. Et quand, pour eux, vraiment, la résistance, c'est de rester en Palestine à tout prix, de rester sur leur terre et de faire en sorte, même si des enfants vont faire des études ailleurs, ils reviendront, ils savent qu'ils reviendront en Palestine. Et ça, cette force-là est vraiment étonnante et très forte. Donc...
D'ailleurs, ils sont passés du concept de résistance au concept de résilience. On parle de la résilience. Oui. Et la résilience, c'est finalement exister. Hein, quand ils disent, par exemple, résister, c'est exister. Le simple fait qu'il existe un peuple sur cette terre, c'est un phénomène de résistance, puisqu'en fait, l'objectif d'Israël, et c'est ce que nous a raconté d'ailleurs Michel Warshavski, qui est un juif israélien, qui est un des résistants, des rares résistants anticolonialistes pour la justice en Israël, nous racontait que, malgré tous les efforts faits par la politique israélienne de faire disparaître ce peuple, ce peuple existe. Et je crois que c'est vraiment fondamental dans la logique actuelle qui fait que rien n'est irréversible puisque le peuple est là. Et qu'il n'est pas question qu'il bouge. Et c'est vrai qu'on a pu aussi constater sur place, et moi je peux le faire un petit peu avec recul, puisque c'était ma 21e mission, j'y vais depuis les années 80 en Palestine, donc il y a un peu de recul pour voir les évolutions. Et j'ai été frappée cette fois-ci par la dynamique qui se met en place dans les campagnes, par exemple, la prise en compte, peut-être même des fois plus en avance que chez nous, de tout ce qui est l'écologie, la protection de la terre. Nous avons rencontré beaucoup de paysans qui faisaient des usines de biogaz, enfin des petites unités de biogaz, des unités de compost, qui se posent vraiment la question d'une agriculture biologique et qui vraiment ont cette conscience de la préservation de l'environnement et de la terre. Et ça m'a beaucoup frappée. Puisque un des objectifs aussi de la mission que je n'ai pas rappelé tout à l'heure et de l'AFPS, c'est de développer des projets. Nous ne sommes pas un organisme de développement, mais nous développons sur place des projets de solidarité. Parce que c'est très important, d'une part, pour la solidarité entre peuple français et peuple palestinien. Et puis, c'est les aider aussi dans cette dynamique de construction d'un développement palestinien. Donc, nous avons soutenu, bon, je rappelle, parce qu'on en a déjà parlé à ce poste, toute la rénovation de la filière oléicole en Palestine et le soutien aux coopératives de production d'huile d'olive. Nous avons soutenu à Gaza et dans la vallée du Jourdain, comme le rappelait Michel tout à l'heure, la question de l'eau est fondamentale, donc des projets d'irrigation dans la vallée du Jourdain et à Gaza. Et puis là, nous avons un projet qui est de rénover et de construire même 45 maisons de Bédouins dans la vallée du Jourdain. Pourquoi la vallée du Jourdain? Parce que c'est un des enjeux fondamentaux avec Jérusalem de la Palestine aujourd'hui. 85%, on peut dire, de la vallée du Jourdain est annexée par les colonies israéliennes et l'armée israélienne. Et donc, les quelques unités de Bédouins qui peuvent résister sur la vallée ont besoin vraiment d'être soutenus, puisqu'ils sont la plupart en zone C. Zone C, c'est zone sous contrôle complètement israélien. Je rappelais que c'était 60% de la Cisjordanie. Et dans ces zones C, ils n'ont pas le droit de construire de maisons. Ils n'ont pas le droit de forer des puits, ils n'ont droit à rien. Et donc, nous intervenons justement pour permettre à ces populations de rester dans ces zones-là. Donc, on aide à construire des maisons qui peuvent être détruites d'ailleurs du jour au lendemain, parce qu'Israël peut décréter que ces maisons sont illégales et que donc elles n'ont pas de permis de construire. Mais ça permet aux gens d'avoir des conditions de vie un peu meilleures. Et donc, nous allions aussi sur place pour vérifier, pour rencontrer nos partenaires. C'est pour ça que c'est très important, cette solidarité concrète pour aider et les encourager, parce que tous nous l'ont dit, je crois. Aucun ne nous... L'importance de venir sur place pour témoigner. Mais
ça, ils ont souvent dit et redit combien c'était important d'être là. L'amitié, tout simplement, de sentir que des amis au-delà venaient et étaient là, étaient présents et de se voir concrètement, c'est vrai, parce qu'on parle des Palestiniens, mais tout d'un coup, quand on voit des visages, les visages des femmes, des hommes, des enfants, ces enfants qui vivent beaucoup plus difficilement, qui sont tout palichons parce qu'ils ont peu de sommeil et vraiment c'est vraiment important, ces rencontres qui se font et cet accueil qu'on reçoit qui est presque... Enfin, moi, j'avais l'impression un peu d'avoir honte d'être remercié de quoi. Enfin, vraiment, alors qu'il y a un échange il y a un accueil extraordinaire et une amitié qui s'est créée par-delà toutes ces années où la FPS commence maintenant à travailler.
Et votre point de contact quand vous organisez ces missions là-bas, qui vous rencontrez donc?
Alors, nous rencontrons les partenaires. D'abord, cette mission a été organisée conjointement avec un ami palestinien avec qui nous travaillons depuis le début, puisqu'il était le directeur de l'Union des fermiers palestiniens avec lesquels on a construit et élaboré le projet de soutien à la filière oléicole. Et Issa est resté notre partenaire. Donc c'est lui qui... on a travaillé en amont tous les deux sur les contacts pour organiser la mission, qui on voulait rencontrer. Et ensuite, c'est lui qui a organisé toute l'infrastructure qui était parfaite d'ailleurs, c'est-à-dire les transports pour pouvoir se déplacer rapidement, l'hébergement, etc. Alors qui on a rencontré? D'abord, on a commencé par rencontrer des Israéliens. Donc on a rencontré à Jérusalem... Michel Warshavski du Centre d'information alternative, qui a été le premier centre où Israéliens et Palestiniens, déjà depuis la première intifada dans les années 80, passaient la frontière symbolique, puisqu'il n'y a pas de frontière, mais pouvaient communiquer et faire une association ensemble. C'est une association qui continue à exister avec d'énormes difficultés financières, puisque vous savez que le gouvernement israélien, qui s'extrême droitise de plus en plus, coupe les fonds de toutes les organisations israéliennes qui sont qui défendent la justice et le droit. Et puis nous avons rencontré à Tel Aviv une association qui s'appelle Décoloniser, avec Eleonore Bronstein, qui nous a parlé de tout un travail intéressant fait par les Israéliens contre justement l'idéologie sioniste. Et on rejoint un grand débat aujourd'hui en France, puisque vous avez pu entendre que aussi bien Monsieur Macron que Monsieur notre Premier ministre veulent faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme. Or, ça n'a strictement rien à voir, puisque nous avons rencontré donc des Juifs qui sont antisionistes, mais qui sont israéliens et qui se revendiquent bien sûr israéliens. Et nous avons rencontré aussi des représentants du front Hadash, dans lequel le Parti communiste israélien est très important, et qui font un très bon travail aussi sur le terrain en Israël. Mais tous nous ont alertés sur la fascisation du gouvernement d'Israël et sur la difficulté aujourd'hui d'entraîner un grand mouvement de solidarité des Israéliens avec les Palestiniens, donc de leur faiblesse, en fait, et de leur isolement, peut-être.
Ils ont insisté sur le fait que la société israélienne considère les Palestiniens comme des êtres un peu inférieurs, ce qui donc rappelle de très, très mauvais souvenirs.
Et la montée du racisme, Michel Warchavski donc nous disait qu'il n'avait jamais connu quand même un tel lâchage des idées racistes et du mépris des Arabes, y compris, puisqu'il faut rappeler quand même que plus de 20% de la population d'Israël, ce sont des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, mais qui sont donc les Palestiniens d'origine, qui étaient en territoire israélien, qui y sont restés. Alors ça, c'était pour le volet israélien. Et nous avons rencontré aussi quelqu'un de très intéressant, une Israélienne qui était une archéologue, puisque un des grands problèmes aujourd'hui sur Jérusalem, puisque c'est un des enjeux, vous savez que Israël veut annexer, et a annexé d'ailleurs, Jérusalem comme étant sa capitale. Et un des enjeux, c'est de prouver et de montrer qu'il y a plus de 2000 ans, là, il y avait bien le temple, il y avait bien des Juifs, et que donc c'est leur terre. Et l'archéologie est devenue un alibi idéologique pour prouver cela. Donc on a visité avec cette association d'archéologues israéliens, une jeune femme donc, qui nous a montré les fouilles qui sont en cours dans le quartier de Silouane, qui est un quartier de Jérusalem-Est peuplé par des Palestiniens, où il y a des expulsions en permanence parce qu'il y a de ces fouilles et que donc on veut retrouver les origines. Et elle montrait comment dans les couches des fouilles, ils éliminent tout ce qui est en surface pour arriver au fond pour essayer de prouver que c'est bien des vestiges qui datent du moment du premier temple et du deuxième temple.
Hein. Et ils n'ont pas trop de chance, parce que la partie qui est prétendument l'ancien palais de David, surplombant donc des maisons, des constructions en contrebas, et à partir de ce palais, c'est là que le roi David aurait vu la fameuse Bethsabée, la femme de Uri le Hittite, et il aurait cherché à la séduire. Et puis ils se sont rendus compte, les archéologues, en faisant des datations scientifiques, qu'il y avait près de 7 siècles d'écart entre la construction du haut et les constructions du bas. Donc ça détruit complètement l'argumentation avancée officiellement par les gens qui s'occupent du volet politique de ces fouilles, pour essayer de justifier la présence des Israéliens sur cette partie-là.
Donc c'est heureusement qu'il y a ces Israéliens qui sont courageux et qui interpellent véritablement leur histoire et leur société. Et puis donc en Palestine, nous avons rencontré nos partenaires, que ce soit les coopératives ou les écoles dans le nord de Ramallah que nous avons soutenues, Fayez, dont on parlera tout à l'heure, qui viendra à Tohar le 28 octobre, qui est un des agriculteurs palestiniens avec lesquels nous travaillons depuis maintenant 15 ans. de 15 ans. Nous avons rencontré des politiques, donc Samia Bamier, qui a été longtemps au ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne et qui travaille sur les droits des femmes. Nous avons rencontré Dalal Salameh, qui est une des seules députées, d'ailleurs, femmes de Naplouse, et qui est la seule femme membre du bureau politique du Fatah, avec qui moi je travaille aussi depuis les années 90, parce qu'elle était aussi très impliquée dans le mouvement des femmes. Et puis nous avons rencontré à Hébron l'UPMRS, qui est une union pour la santé, le développement de centres de santé ruraux, etc. Nous avons rencontré une pédopsychiatre pour essayer un peu de comprendre toute la logique. Nous sommes allés dans un camp de réfugiés, puisque c'est un des aspects aussi importants de la Palestine, c'est qu'il y a toujours des réfugiés palestiniens qui ont été chassés en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël et qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, y compris à l'intérieur de la Cisjordanie, Naplouse, Bethléem, dans toutes les grandes villes. Et là, nous sommes allés donc dans un camp de réfugiés à Al-Aqsar, à Naplouse, pour rencontrer les réfugiés. Nous sommes allés donc dans la vallée du Jourdain, où nous avons rencontré les Bédouins et les responsables du gouvernorat de Jéricho et de municipalités dans la vallée du Jourdain. Nous sommes allés à Bethléem, à Beth Jala, dans un village qui s'appelle Wadi Foukine, qui est au sud de Bethléem, qui est complètement encerclé, lui, coincé entre la ligne, ce qu'on appelait la ligne verte, donc la ligne d'armistice en 1948, et les colonies, et qui est pris en tenaille comme ça, et on voit les colonies qui dévalent dans la vallée. Et c'est un village sur lequel intervient beaucoup la FPS pour soutenir les agriculteurs dans des projets de coopératives, aussi bien d'ailleurs pour les femmes que pour les agriculteurs. Donc on a eu 10 jours intenses, hein, de rencontres.
Très intenses.
On va en venir à cette conférence débat qui va avoir lieu dès ce samedi 21 octobre à 20h à la salle de l'Ermitage. Si vous voulez nous présenter Isabelle Avran.
Oui, alors donc nous avons, parce que samedi 21, donc nous tenons notre assemblée générale à partir de 16h à la salle de l'Ermitage. Et ensuite à 20h, donc, nous avons la conférence débat avec Isabelle Avran. Donc Isabelle Avran, elle est historienne, elle est journaliste, notamment à Mediapart et à L'Orient 21, qui est un bulletin hebdomadaire qui regroupe des spécialistes du Moyen-Orient et qui publie des articles très intéressants de fond pas seulement la Palestine d'ailleurs, sur tout le Moyen-Orient. Elle est membre fondateur de notre association au niveau national et membre aussi fondatrice de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, qui regroupe beaucoup d'associations. Je me viennent à l'idée, par exemple, Caritas, le CCFD, donc aussi bien des chrétiens, des humanistes que des organisations de solidarité comme les nôtres, quoi. C'est très important, cette dynamique aussi de rassemblement des organisations pour les droits de l'homme en France contre la politique israélienne. Donc à 20h, cette conférence avec Isabelle pour nous parler donc 2017, une année de sombres anniversaires pour la Palestine. Pourquoi nous parlons de sombres anniversaires? Puisqu'il y a 3 anniversaires, entre guillemets, hein. 1917... C'est la déclaration Balfour qui, suite au démembrement de l'Empire ottoman et à ce qu'on a appelé les accords Sykes-Picot en 1916, qui ont partagé en fait cette région entre la Grande-Bretagne et la France. Un an après, 1917, la déclaration Balfour qui dit que les Juifs ont le droit d'établir un foyer national sur cette terre. Donc c'était le début d'une vague de colonisation de cette zone, de la Palestine historique. Ensuite, il y a 1967, c'est ce qu'on a appelé en France la guerre des 6 jours, et c'est donc l'avancée d'Israël jusqu'au Jourdain et la colonisation de toute la Cisjordanie et de Gaza. qui a duré jusqu'aux accords d'Oslo directement et qui continue encore aujourd'hui, puisque malheureusement, comme on l'a rappelé, la Cisjordanie continue à être occupée et Gaza sous blocus. Et puis donc le troisième anniversaire,
1947.
C'est, ah oui, j'ai sauté 1947. 1947, donc c'est la déclaration de l'ONU, le partage de la Palestine historique en deux États, donc un juif et un arabe. Sauf que Israël effectivement est devenu un État et que la Palestine n'est toujours pas un État. Donc voilà, c'est trois anniversaires importants. Et donc Isabelle nous parlera de cela, mais surtout elle nous parlera des situations et perspectives, puisque quand nous étions en Palestine, il y a quand même quelque chose qui s'est produit et qui est important, c'est qu'il y a eu un accord, enfin maintenant qui est effectif, un accord entre le Fatah et le Hamas. Donc le Hamas qui, depuis 2007, avait mainmise sur Gaza, et l'autorité palestinienne qui est principalement donc tenue par l'OLP, ce qu'on appelle l'OLP, et le Fatah étant la principale composante. Et là, donc, il y a eu un accord entre l'autorité palestinienne et le Hamas pour réunir, redonner à Gaza le pouvoir à l'autorité palestinienne sur Gaza, en accord avec le Hamas, bien sûr, et pour une réunification du mouvement national palestinien, ce qui nous semble essentiel. Peut-être que tu as quelque chose. Et donc, ça, c'est une perspective d'avenir qui ouvre quand même, on l'espère, peut-être une perspective pour les Palestiniens. Et le 28... Alors ça,
voilà,
c'est
il nous reste quelques minutes pour revenir au 28, samedi 28 octobre à 17h30 à la salle du Conseil à Tohar.
Alors à Tohar, donc, nous accueillerons le maire de Tohar, qui est en même temps président de l'association de coopération décentralisée Provence-Palestine, accueillera avec d'ailleurs des membres du conseil départemental et la confédération paysanne du 04, Fayez Altaneb, qui est donc un paysan palestinien, un agriculteur palestinien du village de Erta, tout près de Tourkarem, Tourkarem étant au nord-est de la Cisjordanie, le long de la ligne verte, et qui est un paysan qui a eu sa ferme. Sa ferme se situe entre le mur, physiquement, hein, le mur qui fait bien 7 mètres, et une usine polluante chimique qui a été déplacée d'Israël en Cisjordanie par les Israéliens, parce qu'il y avait eu des protestations de la population israélienne contre cette usine type Seveso. Et elle a été mise donc en territoire palestinien, parce que les vents venant du large pousse en fait la plupart du temps la pollution vers les Palestiniens et non pas vers les Israéliens. Donc vous voyez déjà le concept d'apartheid. Et cette ferme est prise en tenaille entre les deux. Et Taneb Fayez a eu sa ferme détruite plus de 3 fois. C'est un militant résistant palestinien qui a été emprisonné plusieurs fois et qui, malgré tout, reconstruit toujours, défend sa terre, résiste en étant sur place. Et là, il nous a fait visiter donc à la fois comment il essaie de mettre en place un maraîchage biologique les difficultés aussi aujourd'hui des agriculteurs palestiniens qui voient leur marché inondé par les produits israéliens beaucoup moins chers. Et qui font couler donc les productions palestiniennes parce qu'il vend par exemple ses concombres à un prix dérisoire qui ne couvre même pas le prix de revient. Donc il viendra nous parler à la fois de sa résistance, mais aussi de la situation. Et avec lui, nous avons un projet que nous menons maintenant depuis plusieurs années de replantation d'oliviers dans les terres qui ont été détruites par le mur. Et donc nous sommes allés d'ailleurs visiter cette plantation. Donc ça, c'est à 17h30 à la salle du conseil à Tohar, donc là il y aura une réception officielle en mairie, puis à 18h30 à la salle des fêtes de Tohar, il y aura donc la conférence avec Fayez et un témoignage qui se terminera d'ailleurs par un pot de l'amitié.
Le 28 octobre.
Et je voulais rajouter que en ce moment il y a un franco-palestinien qui s'appelle Salah Amouri, qui est en prison de manière complètement illégale par Israël, qui a été placé de nouveau en détention administrative, c'est-à-dire sans jugement, nous demandons et nous exigeons l'intervention de l'État français pour sa libération. Malheureusement, enfin là, apparemment, ils ont été, sa femme est française aussi, et ils ont été rencontrés, ils ont pu rencontrer quelqu'un du ministère qui a promis de faire quelque chose, mais n'empêche qu'on n'en entend pas du tout parler dans les médias. Salah Hamouri, nous avions déjà mené une grande campagne, puisqu'il avait été condamné une première fois à 7 ans de prison sur rien, sur présomption d'actes qu'il n'a pas commis. Il y a un acharnement contre ce jeune homme. Sa femme, qui est française, ne peut même pas le rejoindre à Jérusalem alors qu'ils ont un enfant qui a un an. Il est donc de nouveau en prison pour appartenance à une organisation terroriste, alors que rien, d'abord cette organisation fait partie de l'OLP, elle a été mise sur les listes terroristes par les États-Unis et il nie en plus appartenir à cette organisation. Donc nous allons essayer samedi aussi de distribuer sur le marché, samedi matin avant l'Assemblée générale, des pétitions pour sa libération et faire connaître la situation.
Merci Monique Etienne et merci donc à vos invités Myriad et Michel. Et c'est tout de suite le moment de nous quitter. Très bonne journée. Et puis on rappelle donc conférence débat avec Isabelle Avran samedi 21 octobre à 20h à la salle de l'Ermitage. C'est entrée libre ?
Oui.
Et puis le prochain rendez-vous donc le 28 octobre, samedi aussi, à partir de 18h30 pour les témoignages et échanges avec Fayez Altaneb. Merci, au revoir.
Merci.